Il y a un moment, il y a des radios qui, en direct, avaient besoin de dire à leurs jeunes auditeurs, parce que c'était des radios de jeunes.
Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Le bourdon est commun à la cornemuse, au chant diphonique, à la musique ambiante, au chant grégorien ou encore au raga indien. Alors au cours de ce numéro bourdonné de métaclassique, nous recevons successivement quatre invités à qui le mot universel peut échapper de temps en temps. Le musicologue David Fiala pour savoir pourquoi le bourdon est fondamental sans être pour autant l'essentiel dans le chant grégorien. Le sitariste Michel Gay pour expliquer comment les harmonies de la musique indienne regorgent d'un bourdon volontiers comparé à l'énergie vitale cosmique. La traductrice Fanny Quément à propos des possibles hésitations dans le passage de l'anglais au français entre les mots bourdon, drone ou encore nappe. Et nous recevons encore en fin d'émission Martine Bardon pour évoquer les travaux de son mari Paul Bardon sur le faux bourdon dans le Requiem de Mozart. Sans compter que le bourdon est aussi le nom d'une cloche. David Fiala, est-ce qu'il y a un rapport entre la cloche qui s'appelle le bourdon et cette forme de chant qui est le bourdon ?
Oui, bien sûr. Autour du bourdon, il y a une infinité de connexions entre tout un ensemble de mots. C'est assez compliqué. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que bourdon, le terme français bourdon est un peu particulier, un peu isolé, puisqu'il apparaît au Moyen-Âge, puisqu'en latin, burdo, c'est un mulet, c'est un âne. Mais le sens a apparemment complètement disparu. Enfin, ça a subsisté avec le bardo. Un mulet bâtard. Mais après, le fait que... Bon, évidemment, le bourdon, c'est l'abeille mâle, quoi. Enfin, c'est ce gros insecte qui fait un son assez continu et qui donc a dû... alors, dans quel sens ça s'est passé, c'est quand même, ça reste quand même très mystérieux, même l'étymologie n'est pas très claire. Donc oui, bien sûr, la cloche grave, c'est ce son continu, grave, c'est ce qu'il y a de commun à... tout ce champ lexical autour du bourdon, c'est un son grave et continu.
Donc on ne sait pas si on donne le nom bourdon à l'abeille mâle avant ou après d'avoir chanté le bourdon.
Ben finalement, c'est un peu impossible à savoir. Ouais. Ce qui est clair, c'est que c'est pas le cas dans l'Antiquité latine, que ça arrive quelque part au Moyen-Âge. Alors est-ce que c'est l'abeille qui arrive, est-ce que c'est l'insecte qui arrive avant le son grave, avant le grommellement? Apparemment... c'est Dante qui déjà utilise le terme de frémissement grave, bordone, il utilise ça. Et puis il doit y avoir quelques attestations pour donc cette technique de chant qui consiste à simplement tenir une note grave sous une mélodie, quoi. Alors, ce que ça suppose quand même, le bourdon, c'est donc cette technique qui consiste à tenir une note sous une mélodie, c'est malgré tout une technique musicalement relativement intéressante, puisque c'est pas n'importe quelle note qu'on tient sous la mélodie. C'est forcément la note principale, une des notes principales de la gamme dans laquelle est constituée la mélodie. C'est forcément soit la fondamentale, enfin la tonique, la note de départ, la note de fin, soit éventuellement ce qu'on entend dans les instruments à bourdon, comme la vielle à roue, les choses comme ça, ça peut être la dominante, enfin le cinquième degré, enfin c'est forcément des sons structurels de la gamme dans laquelle on chante. On va pas faire un bourdon sur la sensible, si vous voulez, enfin sur une note dissonante de la gamme. On choisit la note la plus consonante pour faire le bourdon.
Donc ça organise déjà un système harmonique.
Alors ça veut dire qu'effectivement, bourdon suppose qu'il y a un système de gamme organisé, qu'il y ait des échelles, qu'on soit dans des modes, dans des modalités. Mais après tout, il n'y a pas de musique sans organisation des sons. Donc ça veut dire qu'a priori, le bourdon existe de tout temps et partout, par principe. C'est aussi ce qui rend difficile de faire son histoire, enfin de travailler là-dessus, parce que c'est quelque chose d'absolument universel. Enfin, on l'entend dans la musique indienne, il y a des cordes sur des sitars qui servent à ça, qui sont même à la limite des choses qui résonnent simplement sans qu'on fasse rien, parce que la note fondamentale revient dans la mélodie et que en fait ça crée une sorte de continuité dans la musique. Et de toute façon, c'est ça l'organisation de la musique, c'est d'avoir ce point de départ et ce point d'arrivée auquel on revient, qui permet de structurer, enfin d'organiser le discours musical.
Quelle fonction il occupe, le tempura, Michel Guay ?
Il donne la tonique. C'est un peu comme... on peut comparer ça à la peinture. On a un arrière-plan sur lequel on va mettre nos personnages et tout ce qu'on veut, ou l'événement, ou quoi que ce soit. Mais ça n'aura de sens que s'il y a cet arrière-plan, ce ciel ou ce fond de couleur qui va faire ressortir, en l'occurrence, les notes.
Donc ça va avoir une fonction esthétique de préparation du relief.
Absolument, oui. Mais elle est constante aussi. C'est comme le « ça », la tonique, elle est constante. C'est un peu comme un absolu. On peut voir ça comme un point absolu de référence. Et dans le contexte de la philosophie indienne, on comprend tout de suite à quoi on fait référence.
C'est ça, c'est que c'est tout de suite chargé symboliquement.
Absolument.
On a l'impression que c'est un écho du monde.
Absolument, oui.
Mais on se pose alors d'office la question de quelle partie du monde est-ce que c'est l'écho ?
Eh bien là, on est outre-monde puisqu'on fait référence à quelque chose, une valeur pérenne, quelque chose qui est en dehors des manifestations terrestres, on peut dire. On fait référence à Dieu, à la divinité. Et donc cette constante-là est toujours, la constante est toujours présente dans la musique et dans nos vies, dans ce contexte-là.
Ça s'appelle le ça.
Le ça, oui.
Le ça, donc S-A, mais c'est quand même homophone S-A. Avec le ça, c'est dit A de Freud.
Oui, mais on n'est pas chez Freud du tout, là. C'est Sarge. Le ça, c'est l'abréviation de Sarge.
Vous dites on n'est pas chez Freud du tout, mais vous le citez quand même.
Où est-ce que je le cite ?
Page 49 de... Alors, je précise, de La saveur du ravissement.
J'ai pas fait ça.
Masson et Pat Wardan
estiment
que Samskara et Vasana correspondent à l'inconscient de Freud. C'est quoi, alors, Samskara et Vasana ?
Samskara. Le samskar, dans le hindi modèle, on utilise pour parler d'héritage, dans le sens de culture. Quelqu'un qui a du samskar, c'est quelqu'un qui est cultivé. Par exemple, quelqu'un qui est impoli et ne sait pas comment se comporter envers ses aînés, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas de samskar, c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué. Quand on va plus profondément dans le sens philosophique, samskar et vasana, ce sont des héritages des vies antérieures. Les vasana, c'est un peu comme, je ne dirais pas des tâches, mais les traces des expériences des vies antérieures qui vont influer sur notre vie actuelle et nous faire agir de telle ou telle manière. Et donc, je parle de Pat Vardhan, entre autres, qui fait référence à Freud, pour qu'on puisse assimiler cette notion de vasana et samskara sans croire à la réincarnation et sans être hindou.
Ah oui, donc dans l'idée de Masson, c'est en fait une traduction occidentale que
Masson,
doit trouver
oui,
dans l'inconscient.
Oui, je traduis, je me permets de citer ces gens-là pour qu'on puisse assimiler ces notions de sanskar et vasana, vasana qui sont les traces des vies antérieures, hein, pour dire qu'on a des traces de notre petite enfance aussi, et qui sait, peut-être même de quand on est dans le ventre de sa mère. Je veux dire, on a, même dans nos vies à nous, on est influencé par des choses dont on n'est pas conscient. Donc, Je veux pouvoir importer cette notion-là dans notre pensée occidentale sans être hindou ou adhérer à la croyance en la réincarnation.
Les premières attestations de la polyphonie, quand je disais degré zéro de la polyphonie, le vrai degré zéro de la polyphonie, c'est l'organum parallèle, c'est-à-dire prendre une même mélodie et la chanter à la quinte en parallèle, ou à l'octave, ou enfin à l'octave, alors là c'est le degré vraiment super zéro de la polyphonie, mais à la quinte, à la quarte, ou disons dans certains intervalles, et puis éventuellement ensuite à la sixte, enfin tous ces... Mais c'est ça les débuts de la polyphonie, les vrais débuts de la polyphonie. Alors est-ce que le bourdon... C'est sûr que dans la pratique, quand on entendait du bourdon, on entendait de la polyphonie, c'est évident. Et que donc il y avait une perception polyphonique, mais ça n'est jamais décrit ni élaboré par les théoriciens de la musique. Personne ne vous explique, si vous voulez enrichir le plein chant, faites un bourdon. Cette phrase n'apparaît nulle part. Mais c'est une évidence que c'est une pratique qui était relativement commune.
Ça va tellement de soi qu'on n'en fait pas la théorie.
C'est ça.
Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre bourdon et faux bourdon? C'est quoi cette histoire de faux bourdon?
Alors, le faux bourdon, en fait... À vrai dire, ce qu'on désigne par faux bourdon, donc, qui apparaît plutôt vraiment à la toute fin du Moyen-Âge, hein, c'est plutôt 14e, fin 14e, surtout début 15e, en fait, à vrai dire. Hein, donc on est quasiment à l'époque moderne, en fait. Faux bourdon, à vrai dire, ça a assez peu de rapport avec le bourdon, parce que le faux bourdon, c'est ce que je viens de décrire, en fait, c'est la polyphonie parallèle. En fait, ce qu'on désigne par faux bourdon, ou alors, bon, il y a beaucoup de controverses, parce que... Il y a beaucoup de termes, il y a falso bordone en italien qui désigne pas la même chose que le faux bourdon français, que le faberden anglais. Enfin, il y a pas mal de techniques différentes. Mais pour le dire très généralement, ce qu'on trouve chez Guillaume Dufay, donc au début du XVe siècle, dans les premières partitions où c'est vraiment écrit faux bourdon sur la partition notée, c'est de la polyphonie parallèle. Donc il y a le plein chant à la voix supérieure et deux voix inférieures qui font la même mélodie, l'une à la quarte, l'autre à la sixte, et c'est des sixtes parallèles.
Mais alors, le plein chant, ça veut dire qu'il y a quand même des notes différentes.
Alors, ça veut dire qu'il y a des notes différentes. Donc, ouais. En fait, le faux bourdon n'a rien à voir avec le bourdon.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, c'est de la polyphonie parallèle. Donc, c'est vraiment du faux bourdon, mais très très faux. Alors, parce que ça a quasiment rien à voir avec le bourdon, en fait.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui a incité les musiciens à adopter le même terme? C'est peut-être cette idée que c'est une technique, effectivement, pour enrichir la polyphonie avec une technique très simple, en fait. Hein. Les mélodies parallèles ou le bourdon, finalement, c'est les deux techniques les plus rudimentaires de la polyphonie. On peut tenir une note et puis faire une mélodie dessus, ou on peut prendre une mélodie et faire la même mélodie à un intervalle en dessous, ou au-dessus, d'ailleurs, ça peut fonctionner aussi. Et c'est sans doute ça qui a... donner cette idée de faux bourdon, mais à vrai dire, les origines du mot faux bourdon sont totalement inconnues. Hein. Si on réfléchit, qu'est-ce que ça produit en termes de contrepoint, le bourdon? Ça produit ce qu'on appelle du mouvement oblique. Enfin, c'est-à-dire il y a une voix qui est stable et l'autre qui bouge. La mélodie bouge et l'autre voix est stable. Donc, ce qu'on cherche à faire en contrepoint, en polyphonie, quand on veut justement orner le plein chant, c'est à créer de la variété. Et donc cette variété, elle se produit en contrepoint par l'alternance de mouvements contraires et de mouvements parallèles. Hein, c'est ça l'idée, et de mouvements obliques. C'est qu'il faut alterner les trois. Donc c'est pour ça que je disais que le mouvement parallèle est le mouvement... le degré zéro de la polyphonie, mais dès lors qu'on change un seul mouvement dans une des voix, tout de suite, on crée de la variété, tout simplement parce qu'on alterne des consonances différentes. Ce qui est lassant dans le mouvement parallèle, c'est qu'on n'a que dans l'oreille que des cartes en permanence. Alors le bourdon produit un peu plus de variété d'une certaine manière. Parce que comme la mélodie bouge et que le bourdon, lui, est stable, eh ben on va avoir tous les intervalles possibles en fait, dans les superpositions polyphoniques. Donc on va avoir y compris des dissonances. Quand on arrive à la fin d'une pièce musicale où il y a un bourdon, eh ben, l'avant-dernière note elle est fortement dissonante avec le bourdon, puisque le bourdon fait la fondamentale, et l'avant-dernière note, bah, c'est la note en général, la note supérieure. Donc on a une seconde, on va avoir un son qui frotte, et puis tout d'un coup, on revient à la note fondamentale. Donc c'est une technique qui est très 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 rudimentaire, mais qui finalement produit une assez jolie variété d'une certaine manière, même si c'est ce qu'il y a de plus simple à produire. Mais naturellement, ça produit pas mal de variété, et finalement presque plus de variété que du contrepoint parallèle.
Le fait aussi d'avoir cette note continue va fluidifier le rapport entre les hauteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être comme dans une musique occidentale à passer d'une hauteur à l'autre de façon complètement nette. C'est quoi les shrutis, Michel Guay ?
Les shrutis, c'est des microtons.
Oui.
Les shrutis, c'est une manière de faire comprendre que l'espace entre les notes est tout aussi important que la note elle-même. Et s'il n'y a pas la tonique derrière, on ne pourra pas apprécier tous ces degrés, toutes ces gradations de la seule note et la relation entre cette note et la prochaine. Parce que c'est quand on fait ressortir cette relation-là, en glissant entre les notes, qu'on fait ressortir ces shrutis, ces points de brillance entre les notes. Et c'est quand on fait ressortir la relation qu'on fait ressortir le sentiment, forcément. Parce que où il y a relation, il y a aussi sentiment. Donc, il y a une école très stricte qui nous dit qu'il y a 22 microtons. Et il y a une expérimentation dans le Natyashastra qui date de... Bon, les dates changent tout le temps, mais on va dire entre 200 avant notre ère et 200 après. Hein, c'est une espèce de compilation. Une expérimentation qui s'appelle Chatussarani. Une expérimentation en quatre étapes qui prouve l'existence de ces 22 shrutis. Donc, on a appris ça à l'université, au Collège de musique à Benares, mais je ne pourrais pas vous... Il faudrait que je revoie mes notes. Mais c'est pour dire que, par exemple, mon maître de sitar, Ramdas Chakravarti, lui me disait, si t'en veux 22, je t'en donne 22. Si t'en veux 100, je t'en donne 100. Les gens qui parlent de ça, c'est des bourriques.
C'est-à-dire donc, qu'il avait une défiance pour ce qui serait une quantité
pour
fixée.
Le formalisme.
Oui, mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une quantité qui dépende de nous, donc de notre quantité de sentiments ?
Non, ça veut dire qu'on ne va pas compter ni jouer les shrutis les uns après les autres.
Oui.
Parce que sinon, ça ferait, si je chanterais la gamme, ça ferait... ça ferait un seul son, ce qui serait ridicule. Ce que les shrutis nous disent, c'est qu'on doit interpréter la note aussi par rapport à une autre note. Par exemple, dans le rag Bhairav, la seconde est bémol et très bémol, ati komal. Et elle a une relation étroite avec le dha komal, qui est une relation d'une quinte. Et elle va faire redescendre ce dha komal-là, cette sixte-là aussi. Et donc là, on va être assis, on va osciller la note, et forcément, on va toucher d'autres degrés. Et c'est ces autres degrés-là dont on veut parler quand on dit shruti. Mais on dit aussi en Inde, on dit quelqu'un qui a le shruti. Pas les, mais le. C'est-à-dire qu'il a l'intonation parfaite, juste, quand il intonne tel ou tel raga.
C'est l'équivalent de celui qui, en Occident, a l'oreille absolue ?
Non, pas du tout, parce qu'il n'a pas d'oreille absolue en Inde, puisqu'on met la tonique où on veut.
Mm.
L'homme va chanter en do dièse ou en ré, la femme va chanter en sol ou en la, généralement. Il y a Kumar Gandharv qui exceptionnellement chantait en mi, qui avait une voix très haute. Donc on met notre tonique où on veut, et après on chante notre gamme. Et c'est les intervalles qui vont déterminer le raga, et non pas le point de départ. Il ne faut pas confondre le fait, par exemple, de glisser entre les notes comme quelque chose de flou. C'est plutôt quelque chose de très précis. Parce que ça décrit le sentiment avec précision. Et donc, c'est dans ces phrases-là qu'on aura la précision du sentiment, qui nous parlera de ce sentiment-là, qu'on ne peut pas rationaliser, bien évidemment.
Mais qui sera à l'échelle d'une phrase.
Ça sera toujours le résultat d'une phrase. Si j'ai un raga gambera, un raga du matin très, très profond, dont j'ai parlé justement entre au sujet de la seconde et la sixte bémol, extra bémol, il y a une phrase type qu'on appelle le pakad. Pakad qui veut dire attraper. Donc ça fait penser à la phrase, l'expression anglaise catchphrase. La phrase qui fait qu'on reconnaît le morceau, c'est gamma re sa. Donc gamma, sa re gamma pa dani sa, c'est le sargam, c'est le solfège indien. Donc si on a notre tonique, ce qui serait sa, ça c'est notre tonique sa re gamma re sa. Donc là déjà on vient de dire le sentiment. Et là, c'est clair. Et on part à partir de là. Donc là, on a fondé ce sentiment-là, le fondement du sentiment de ce raga-là, de Bhairav, qui est un raga du matin. C'est cette phrase-là. Avec le second qui est bémol, mais aussi andolan. Andolan qui veut dire, elle est oscillée. C'est une note qu'on oscille comme ça. Et donc, en oscillant, on va toucher d'autres points que celui, point fixe, où on pourrait, où on concevrait, où on verrait la note, par exemple, sur un clavier occidental. Donc, on revient au sruti, là aussi. Mm. Donc, là, le sentiment est là dans la phrase. Et après, on construit sur ce sentiment-là. On va approfondir, spécifier les nuances au fur et à mesure, en travaillant avec permutation et combinaison. Sa ga ma re sa, sa re ga ma pa ga ma re sa. On va revenir à ça toujours, mais autour de ça, on peut broder, on peut improviser.
Dans un répertoire d'évolutions qui sont elles-mêmes prédéfinies.
Ce qui est prédéfini, ce sont les phrases types.
C'est ça.
Après, je peux faire
mais
ce que je veux au sens large.
Les façons de moduler la phrase type, elles-mêmes sont dans un panel préexistant.
Ça dépend de ce qu'on veut dire par panel préexistant. Il y a des techniques, oui. Il y a la technique du mine, quand on glisse d'une note à l'autre. Quand on glisse. Il y a katka. Il y a behelava. Etc. Donc, il y a des techniques qu'on peut utiliser avec les mêmes notes pour faire ressortir une autre couleur de la phrase.
Les phrases types dépendent des moments de la journée.
Les ragas dépendent du moment de la journée ou vice-versa, si on veut. Par exemple, Bhairav, c'est un raga du matin. On le chantera pas, on va le chanter. C'est un raga de l'aube, si on veut. Et donc, on sépare la journée en 24 heures et 8 parties de 3 heures chacune. Donc, certaines écoles font 6 à 9, 9, 12, 12, 3, etc. D'autres, c'est 7, 10, 10, c'est 1, 1, 4, etc.
Mais si on boucle avec le tempura, alors est-ce que poser cette tonique et la distribuer de façon permanente, c'est une façon aussi de poser que là, ce qui va se passer, c'est quelque chose de l'ordre de l'universel?
Absolument, absolument. On annonce déjà, ce que vous dites avec les instruments et le tempura qui est parfaitement accordé. Thank you.
Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que c'est qu'on dit quand même avoir le bourdon quand, pour dire avoir le cafard, et en anglais burden, c'est aussi le fardeau. Et que voilà, on a beau dire, enfin, malgré toutes les vertus thérapeutiques qu'on pourra associer au bourdon, on continue d'avoir le bourdon et de porter des fardeaux.
Le festival Les Siècles, la revue Audimat et le quotidien Musique Journal ont publié un texte d'Adam Harper qui s'intitule « Soigné par le synthétiseur Utopie et Dystopie », un texte qui est initialement en anglais et que Fanny Kémant vous avez traduit en français, dans lequel il est question de drones, de bourdons. Déjà, ce n'est pas exactement les mêmes mots, même si en anglais, il y a à peu près l'équivalent.
Oui.
Donc... C'est-à-dire que c'est drone pour drone et bourdon pour bourdon.
Alors... C'est un peu plus compliqué que ça, parce que, en réalité, même si dans la version française, j'ai alterné entre bourdon et drone, non, la version française,
oui.
Donc bourdon et drone, en fait, dans le texte anglais, on ne trouvait que le terme drone. Le terme drone en anglais désigne aussi bien le bourdon d'un instrument comme la cornemuse ou la vielle que le bourdonnement, la nappe produite par un synthétiseur. Et il me semblait qu'en français, le terme bourdon, qui traduit parfois drone, ne désigne que la basse continue des instruments de musique traditionnelle. Ou en tout cas, c'est ce à quoi on l'associe quand même le plus généralement.
C'est-à-dire qu'il vous semble que les usages en français font que le drone serait connoté technologiquement, alors qu'il ne le serait pas dans le mot drone anglais.
Voilà. Et c'est dû notamment au fait qu'on parle du genre drone. En musique électronique, on dit j'écoute du drone, on dit pas j'écoute du bourdon. Donc.
Ce qu'on dit pas quand on écoute effectivement de la cornemuse. En effet.
On ne dit pas non plus j'écoute du bourdon quand on écoute de la cornemuse, mais en fait le fait que le mot drone soit vraiment entré dans notre vocabulaire vient, en fait ça vient de la technologie et de deux aspects de la technologie, c'est-à-dire d'un côté son utilisation en musique. Et le fait que ça ait fini par constituer un genre musical à part entière, le drone, et la présence des appareils de surveillance du même nom, qui n'ont plus rien à voir avec la musique, mais qui font quand même partie de notre environnement sonore. Voilà, il y a... En fait, en gros, j'ai alterné entre bourdon et drone pour renvoyer tantôt à ce qu'on associe à des formes de musique traditionnelles, tantôt à ce qui relève plutôt de production musicale qui inclut des synthétiseurs. Ben en fait, en anglais, le terme drone permet de naviguer sans problème du...
Des usages anciens aux usages technologiques.
Oui, voilà.
Ouais. Quand, par exemple, Pauline Oliveros écrit en 1973 « Le son naturel est thérapeutique, surtout quand les bourdons de la technologie ne forment plus qu'un fond sonore très discret. » Alors là, on est dans une, dans une situation qui contredit ce que vous venez de dire.
Oui,
parce que si vous aviez suivi la règle que vous venez d'éducter, vous auriez dû dire drone.
Oui, mais c'est... Alors, je pense que c'est... Je relisais l'article hier et je pense que c'est justement un de ces moments où, plutôt que d'écrire bourdon, j'aurais voulu écrire bourdonnement.
Oui.
Parce qu'en fait, là, elle parle plus... On n'est plus dans la production de certains types de musique. On est vraiment dans la description d'un environnement sonore perçu au quotidien. En fait, j'aurais pu aller plus loin que bourdonnement. On aurait pu dire vrombissement. Enfin, c'est tout. En fait, il y a tous les types de
descriptions
qui créent un fond sonore du type bourdon. Peut-être bourdonnement aurait été une bonne solution, mais après, vraiment s'éloigner de nos histoires de bourdon, on aurait perdu quand même le fil, le fil conducteur de l'article. Mais bourdonnement aurait sûrement été plus juste à ce moment-là.
Vous évoquez le mot nappe sonore à propos de la première musique dont parle Adam Harper, qui est le titre Weightless, qui est signé par Marconi Union, qui est censé être le morceau de musique le plus relaxant du monde.
Oui. Et donc, parce que cette nappe fait partie des éléments culturellement associés à cette idée de soin.
En français, c'est vraiment dans le premier paragraphe de l'article, avec ses nappes de synthé modulaires, aussi riches et chaleureuses que ce que la Deep House a fait de plus deep, Weightless est l'exemple type, l'essence même de l'électronica ambiance.
Alors, l'anglais disait, donc je vais devoir avouer que oui, nap était effectivement une traduction, non pas de drone, mais de droning, puisque c'était « With its droning synthesizer pads, rich and warm, as if imported from the deepest of deep house cuts, etc. etc. » Donc c'était « droning synthesizer pads
». Donc ça aurait presque pu être, vous auriez presque pu traduire par « avec ces modules de bourdon ». Sauf qu'ils étaient synthétiques. Donc ça aurait fait une résistance à employer le mot bourdon.
Pour ma part, oui.
Ouais. C'est bien parce qu'il y a synthétiseur qu'il y a drone. Si vous aviez suivi votre logique, vous n'auriez quasiment pas abordé, employé le mot bourdon, puisque Harper, en fait, parle essentiellement de nappes synthétiques.
Il parle essentiellement de nappes synthétiques parce que lui s'intéresse aux vertus thérapeutiques qu'on a prêtées aux synthétiseurs, mais il dit bien aussi que pour certains compositeurs, certaines compositrices qui ont eu recours au synthétiseur, en fait, ce recours à la technologie n'est pas forcément nécessaire. Il ancre aussi cette utilisation du synthétiseur dans un rapport à la pratique musicale qui vient du mouvement hippie et de l'intérêt pour l'Inde. Il y a notamment ce passage où Harper parle du manuel de Pauline Oliveros, où elle insiste sur le fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un quelconque outil technologique pour produire un bourdon, parce que ce qui lui importe le plus, c'est qu'on puisse faire les exercices qu'elle propose, enfin avec les moyens du bord, en fait.
Oui,
sans même disposer d'un quelconque synthétiseur.
Elle cite un maître soufi, Inayat Khan, qui explique que les chanteurs de l'ancien temps tenaient la même note pendant une bonne demi-heure et étudiaient l'effet de cette même note sur tous les différents centres du corps, quel courant de vie elle produisait, en quoi elle apportait de l'énergie, en quoi elle était apaisante et en quoi elle était thérapeutique. Pour eux, ce n'était pas de la théorie, c'était une expérience. Et alors, le Rana de MacLellan, c'est une autre illustration du soin associé au New Age, quoi. C'est,
Oui, alors là, c'est la production d'un univers sonore qui correspond à l'espoir d'un retour à la musique des anciens, en tout cas la façon dont lui la conçoit, et à tout ce qu'elle avait de bénéfique, selon lui, dans son bourdonnement.
Parce que là, précisément, vous dites bourdonnement, sauf qu'il y a une alliance entre la technologie et cette volonté de revenir à quelque chose de très ancestral, puisque ce MacLellan utilise des micro-Moog qu'il appelle des machines à drones. Donc en fait, c'est des drones qui veulent être bourdons, si on rejoue avec l'écart que vous mettiez entre les deux termes.
Bah, qui veulent en tout cas avoir la même efficace, la même, oui, les mêmes vertus.
Oui.
En fait, ce qui est vraiment au cœur de l'article de Harper, c'est cette tension entre deux forces qui traversent les sons du synthétiseur. Cette tension vient du fait qu'on, d'une part, on associe le son des synthétiseurs au monde moderne, dans ce qu'il a de plus agressif, de plus artificiel, de tout ce qu'il y a de complètement inauthentique. Et à l'inverse, le synthétiseur est aussi cette machine qu'on peut programmer presque indéfiniment pour produire des sons qui peuvent avoir un côté répétitif, un côté très enveloppant, qui ont tout un tas de qualités sonores qui les rapprochent en fait du bourdon.
Il écrit, Harper, s'il est vrai qu'une grande partie du drone produit depuis les années 60 présente un lien implicite avec une pratique thérapeutique ou curative du monde antique ou non occidental, MacLellan en a fait une dimension explicite et incontournable de ses ambitions musicales. Celui qui est préposé au tempura, il doit s'ennuyer, non ?
Pas du tout, parce qu'il est participant dans la musique. Tout comme l'écoute de la musique indienne est participative, parce que c'est une musique improvisée. Donc on suit, note pour note, toute cette évolution-là. L'auditeur fait partie de la création musicale.
Il est sollicité, mais pas tant en tant qu'on s'adresse à lui. Vous dites bien que ce n'est pas une musique qui est produite pour l'auditeur. C'est une musique qui est produite pour l'état dans lequel ça mettra le musicien et à laquelle peut participer en effet l'auditeur.
Non, je dirais pas ça, non. Le musicien, ben, c'est comme un bon auteur. Il doit faire passer l'émotion. C'est le lecteur ou l'auditeur qui doit le sentir. Si l'auteur ou le musicien sent trop l'émotion, il pourra pas la faire passer, quoi. Il va rester là à chialer sur scène, quoi. Donc il faut pas que ça se passe comme ça non plus.
Il y a un travail du sentiment, en tout cas, qui est vraiment intégré au phrasé.
Oui, absolument. Et celui qui joue le tempura est dans ce sentiment. On crée ce monde sur scène où on va pouvoir ériger l'architecture du raga. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui est présent, qui comprend ce qui se passe et qui peut réagir. Et même si ce n'est pas de manière vocale ou de manière évidente, dont la présence va aider à la création, à l'élaboration, et au vistar, comme on appelle ça en hindi. Le vistar, ça sous-entend non seulement le développement, mais le fait que l'on crée spontanément sur le moment même. C'est une improvisation. Hein.
Et celui qui joue le tempura, il a un nom particulier ?
Non, pas du tout. C'est souvent un élève du musicien principal. Et c'est souvent, dans le contexte vocal, par exemple avec mon maître de chant, Partekar, c'est une manière d'apprendre à être sur scène aussi, sans trop prendre de risques, parce qu'on est derrière le tempura. Souvent, c'est le maître, le gourou qui va l'accorder, donc on n'a même pas besoin de s'occuper de ça. Et là, on est assis derrière le tempura. Et on fait partie du protocole de la scène, on voit comment ça se passe, on voit la dynamique, on a le public, mais on n'est pas directement responsable du concert. Donc on peut, de cette manière-là, comme qui dirait, s'immiscer dans le monde de la performance, avant même d'être prêt pour une performance. Et de temps en temps, le maître va nous dire, eh bien là, tu peux y aller, chante une note. Et ça, on voit souvent, au début, on est un peu dérouté parce que le gourou fait signe à l'élève derrière qui joue le tambour de chanter deux notes. Il chante deux notes et le gourou, tout de suite, il l'interrompt et il commence à chanter autre chose. Et ça aussi, c'est une fonction de désamorcer la nervosité. Parce qu'à la fin, on se dit, bon, ben c'est pas grave, on va y aller, il va nous interrompre de toute façon. Donc, on n'a même pas besoin de finir la phrase.
Mais à vous entendre, du coup, ce serait un instrument d'intériorisation du sentiment.
Ça peut l'être aussi, mais de toute façon, la pratique du raga nous exige cette espèce d'introspection-là pour pouvoir le jouer, le chanter et mieux le comprendre. On doit en faire l'expérience. On doit être... Ce n'est pas des formules ésotériques. C'est très charnel. C'est très sensuel, le raga. On doit réagir physiquement, émotionnellement, psychologiquement, et ça va nous influer aussi au niveau spirituel, bien évidemment.
Le fait d'avoir une note continue comme ça par ce tempura, ça fait aussi que c'est une musique dans laquelle on se baigne.
Absolument, oui. Ouais.
Et si on se baigne dedans, en fait, on se baigne dans quelque chose d'encore plus large, qui est quelque chose que vous qualifiez d'une résonance amoureuse, que vous qualifiez aussi de Gange sonique.
Oui, oui. Ben, j'ai vécu à Benares, au bord du Gange pendant toutes ces années, donc c'est l'image qui me vient à l'esprit tout de suite, oui. Oui, cette espèce de fluidité du son et le Gange qui nous sauve, qui lave les péchés pour l'hindou, qui fait que quand il vient, ou même pour celui qui vient, qui est vieux et qui veut mourir à Benares, il sait que quand ses cendres seront versées dans ce Gange-là, il ne se réincarnera plus, donc il sera libéré, il aura le moksha.
Alors, il y a un autre mot. Là, cette fois, c'est une citation de MacLellan faite par Harper. MacLellan fait remarquer que dans les meilleures musiques curatives, les matériaux sonores sont soit des masses qui se déplacent lentement, comme avec certaines musiques électroniques. Des masses qui se déplacent lentement.
C'est le
même champ sémantique que les drones qui est dans le texte original.
Moving sound masses.
Ah, donc c'est bien le mot masse.
Oui.
Des masses mouvantes, donc, ouais. Des masses qui se déplacent lentement. Parce que des masses qui se déplacent lentement, d'un point de vue sonore, c'est bien une sorte de bourdon.
Ah oui, oui, oui. Mais c'est juste, enfin, c'est une autre façon de... Je pense que c'est une façon métaphorique de parler du bourdon.
Oui, c'est une façon de le décrire.
C'est pour souligner le côté organique... le côté assez enfin c'est quand même un son qui emplit l'espace quand on écoute des musiques qui incluent un bourdon il me semble que ça peut tout à fait évoquer ces mouvements de masse sonore et ce qui peut correspondre à une impression de mouvement aussi à l'intérieur du corps.
Mais il semble, selon Harper, qu'il y a quand même une espèce de problème, au sens où tout le monde n'est pas d'accord, justement pour prêter des vertus thérapeutiques à du son qui vient de synthétiseurs. Il écrit que les impressions de Pauline Olivero se rappellent les théories et les valeurs de Murray Schafer, de Murray Schafer sur le paysage de la pollution sonore, mais que c'est facilement la raison pour laquelle des musiciens plus radicaux ou plus dans la contre-culture étaient réticents justement à utiliser des sons de synthétiseurs. Parce que d'un côté, ce que dit Olivero, c'est que il n'y a plus un seul endroit sur Terre qui soit à l'abri de tout bruit technologique, et que paradoxalement, pour se protéger du son de la technologie et de ce que l'industrie ou le monde industriel pollue par le son, le monde, pour se protéger de ça, on utilise des synthétiseurs qu'on branche à l'électricité, enfin, qui donc sont connectés à ce qui fait le monde industriel.
Oui, c'est la tension qui parcourt l'article et qui est même au cœur des pratiques musicales abordées. Il me semble que Harper y voit un geste de réappropriation, en fait, ou de détournement, ou de les compositeurs, les compositrices qui ont recours aux synthétiseurs pour produire ces effets, ont conscience de c'est comme si c'était à double tranchant, en fait. Ce sont des bourdons à double tranchant. Et il me semble qu'il y a une démarche de détournement ou de réappropriation de ce qui n'est au fond qu'une matrice sonore. Parce que finalement, on subit des bourdons, des bourdonnements quotidiennement, mais ce n'est pas pour autant que le bourdon en lui-même est forcément quelque chose de douloureux. Et c'est par un geste de réappropriation qu'on peut en faire quelque chose qui permet au contraire de lutter contre les effets négatifs de tous les bourdons, dont on ne veut pas.
Ouais. Mais il y a quand même une tension quant à cette appropriation-là, au sens où Harper explique que quand on a la musique de la Monte Young, de Terry Riley, de Pauline Oliveros ou de McLellan, qui sont explicitement censés, écrit-il, être écoutés de façon attentive, en profondeur, avec une concentration et une ouverture radicale, avec au passage le paradoxe que des musiques très planes sont censées être d'autant plus pénétrantes alors qu'elles sont planes. Il ajoute que pour, par exemple, Brian Eno, quand il fait Music for Airports en 78, il va écrire l'ambiance, Eno, doit être compatible avec un grand nombre de degrés d'attention différents. Sans en imposer aucun, on doit pouvoir aussi bien l'ignorer que s'y intéresser. Il n'y a pas d'obligation à se focaliser ou à se concentrer. Ce qui est une sorte de rupture. C'est que, à cette occasion, c'est que quand on écoute des synthés lo-fi de New Age aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans après les années 60, il y a un écart culturel par rapport à ces sonorités-là qui fait qu'on entend qu'on écoute du son ancien et donc on a une écoute qui est connectée à une histoire technologique et qui dès lors ne peut pas être dupe de cet écart-là et donc on se trouve témoin d'une musique à laquelle on prête des vertus curatives sans véritablement pouvoir en bénéficier même si on y croit, parce qu'il y a cet écart. Et on entend des synthés des années 70 parce qu'avant d'entendre une puissance relaxante potentielle.
Je ne sais pas si cette conscience de la temporalité empêche forcément le
bénéfice.
Le bénéfice. Ouais. Parce que Harper insiste quand même sur le fait que cette distance n'est pas forcément ironique.
Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Mais il y a quand même une distance.
Qu'on n'écoute pas forcément au second degré ou avec une oreille qui se moquerait un peu de ces sons synthétiques.
Yeah.
Martine Bardon, est-ce que vous pouvez nous dire comment Paul Bardon, votre mari, a développé un rapport intime au Requiem de Mozart ?
Alors, mon mari était totalement immergé dans la musique du fait que toute sa famille était musicienne, musicien passionné. Il me disait très souvent, mais voilà, ce matin, je ne dormais pas, donc j'imaginais une conversation avec Bach, avec Beethoven, et voilà, avec Mozart. Il avait, il pouvait être distrait dans la vie quotidienne, mais jamais concernant la musique.
Et alors, pour le Requiem en propre, c'est-à-dire il l'a chanté à la fois très jeune et très souvent.
C'est ça. L'un des morceaux principaux, le Dies Irae et son faubourdon de la Messe des Morts de Louis Aumet, qui était en usage, je crois, largement en France à cette période.
Comment est-ce qu'il a été amené à faire un lien entre les funérailles de la mère de Mozart à Saint-Eustache et ce faubourdon qu'il soupçonne donc être dans le carillon de Saint-Eustache ?
Oui, alors c'est vraiment, vraiment... Il était complètement imprégné de ce faubourdon et de cette messe des morts pour l'avoir chanté. Et puis, elle a été en usage, je crois, en France, jusque dans les années 60. Et... dans les années 70, par là, il est parti à Chichester. Il a écouté une maîtrise d'enfants, enfin la maîtrise de Chichester, l'Evensong, hein, en fin d'après-midi. Et là, il a noté l'Anglican chant. Et il a dit, mais il y a une parenté certaine avec le faubourdon de cette messe des morts, du Dies Irae. Ensuite, il a été nommé responsable de la musique liturgique dans deux églises parisiennes, Saint-Séverin et Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et là, il est tombé sur un recueil de chants liturgiques de 1786, donc du vivant de Mozart. Il l'a recopié pour servir un catalogue à ce moment-là. Donc là, je pense que l'imprégnation continuait. Ensuite, il a été chargé par le directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture d'une mission au bureau du chant choral. Ben là, il était question de développer la politique musicale française et notamment de refonder des écoles maîtrisiennes et sachant qu'en Angleterre, ça fonctionnait toujours, en mission officielle avec des inspecteurs, ils sont repartis en Angleterre et ils ont écouté 7 maîtrises anglaises. Et là, je sais qu'à ce moment-là, il a dit que ça avait été déterminant pour lui. Et en 2000 ou 2001, un matin, il se réveille et il me dit mais c'est incroyable, il y a une correspondance entre le faubourdon et le Requiem de Mozart incroyable. Il me disait... On a déjà trouvé par le passé des correspondances, hein, des musicologues ont trouvé 9 notes qu'on retrouvait régulièrement, mais lui, il en avait trouvé 23, puis 49, puis il a mené là, à ce moment-là, des vraies recherches qui ont duré plus de 20 ans.
Quand vous dites 23, puis 49, c'est-à-dire ?
Ah ben, il était absolument, il allait de surprise en surprise. Il me disait, des musicologues ont aussi trouvé des notes correspondantes dans le Requiem, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et moi, alors malheureusement, hein, je n'ai pas les capacités d'analyser ça, puis peut-être que ça ferait une thèse pour les étudiants, pour les musicologues, mais j'ai des dossiers entiers de figures en renversement. Il a cherché, il était complètement enthousiaste.
C'est-à-dire qu'il a cherché tous les types de traces de faubourdon qu'il pourrait y avoir dans ce
Requiem, oui.
Au point de retourner la partition pour mieux les retrouver.
Ah, mais complètement, parce que moi j'ai regardé encore hier ou avant-hier avec un ami. Mon mari dit il y a au moins 3 phrases du faubourdon qui sont contenues dans les premières mesures des violons dans l'Agnus Dei du Requiem.
Thank you.
Alors, on sait que le Requiem de Mozart a été abondamment complété par Soussmayer, et sur ce, Paul Bardon n'était pas tout à fait d'accord. Enfin, il est parti pour penser qu'en fait, Mozart a quasiment achevé ce Requiem.
Oui, Paul Bardon était très, très véhément concernant les offensives de Soussmayer. Enfin, mon mari écrit qu'elle avait d'abord demandé à Soussmayer, qui a répondu non, je te la passerai pas, parce que je vais m'en servir pour mon usage personnel. Donc elle a demandé à d'autres élèves de Mozart qui ne voulaient pas. Et puis vraiment ce compositeur, cet ami loyal qui était Joseph Hébler, vraiment. Et lui, il a accepté. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'avait vérifié, c'est que le Requiem n'était pas à compléter, il était inachevé. Parce que dans le contrat, il était question de ne remettre les partitions autographes qu'à Constance. Et il fallait, elle était pressée, comme tout le monde le sait, couverte de dettes, de jeunes enfants, le commanditaire qui attendait la fin de la livraison du Requiem. Il fallait absolument que quelqu'un le termine. Et elle a demandé à ce que la livraison ait lieu avant le milieu du carême. Et dans l'une des lettres de Constance, il est écrit, mon mari a dit à Soussmayer... parce qu'il sentait qu'il allait mourir, si je viens à mourir maintenant, voilà comment tu dois terminer le Requiem. Sur le dernier morceau, tu dois répéter la fugue du Kyrie. Et Constance l'a écrit, donc ce n'était pas de sa liberté, et il a prétendu avoir composé l'Ostias. Enfin, il y a plein de... Mais comme il était aussi, c'était un homme très intelligent, finalement, ça a été passionnant de mener un travail de limier, d'entomologiste et de détective privé pour retrouver tout ça.
Et jusqu'à où on peut généraliser alors cette histoire d'origine française?
Oui. Alors mon mari a vraiment comme dans un sablier, il est parti de son intuition, de quelque chose de très large qu'il a vérifié petit à petit, mais il a fait vraiment un focus sur ce faux bourdon. Et je sais qu'il a cherché partout en Europe si c'était aussi l'usage de cette messe pour les inhumations, de cette messe des morts. Il n'a pas trouvé, en Autriche, en Allemagne, de propagation inspirée du plein chant grégorien de cette façon. Il est resté sur la partition du Requiem et les analogies avec le faux bourdon. Il a écrit notamment en étudiant les accords parfaits du faux bourdon, en position fondamentale et pas en position de renversement, on pouvait garder la même basse, mais modifier les trois autres parties sans commettre de faute, et que pour chaque tonalité, il y avait six positions possibles. Et il y a des exemples comme ça partout. Mais moi je ne peux pas, au-delà de ça, comprendre toutes ces recherches.
Est-ce qu'il doutait parfois de son hypothèse?
Oui. Il y a de nombreux brouillons de toutes ces recherches. Et, d'ailleurs, je crois qu'il écrit dans son livre Hypothèse numéro 1. Moi, j'ai des tas de documents, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Et il menait son raisonnement d'un bout à l'autre. Et quand c'était plausible, logique, il continuait. Quand il arrivait à une impasse, il était bloqué par un principe de réalité. Il changeait d'optique jusqu'à vraiment arriver à quelque chose qui lui paraissait évident et qui pouvait se prouver. Malheureusement, moi j'ai cité toutes les sources, mais il n'est plus là pour vous dire. Vraiment, je l'ai vu travailler vraiment beaucoup, beaucoup, contacter la Bibliothèque nationale autrichienne, Madame Geffray au Mozarteum de Salzbourg. Il était dans toutes les bibliothèques, il se faisait traduire les textes allemands. Il avait vraiment. C'était pas quelqu'un qui. Il aimait trop la musique et il la comprenait trop, je crois vraiment. Même s'il avait beaucoup d'imagination pour imaginer, c'était vraiment pas sa démarche.
Parce qu'il y a toujours le risque de surinterpréter quand on est sur ce type de terrain.
Oui, bien sûr. Oui, mais